C'est non, enfin mi mineur. Enfin, entends-tu?
Et le 66, ça, tu
jouerais?
Ouais. Parce que ça m'aide.
Juste, et puis, tu fais la mélodie pour entendre ce passage. Entends-tu? Mi.
Ok, let's go.
Tu on fait pas l'intro.
Je sais pas, comme tu veux, on fait l'intro.
Ça va être trop long.
Quand tu fais ça, on passe sur off.
Ouais.
Pour le temps qu'on a pu avoir à disposition pour ce repas, on a choisi de
calme et puis.
LOL. Juste si t'as pas la note
de la vidéo, pas.
Je sais pas,
j'avais été
donné
un. Vous savez si
c'est
un 9
ou
pas? Non, c'est mieux ça.
Hein?
C'est mieux ça.
T'as dit que je lui ai donné un
9? Sinon, même là, en fait, je savais pas. Je suis juste un peu plus.
Comme ça?
Ouais, du coup, tu sais si le musicien nous a gardé les masques ou pas?
Ouais, ouais, je pense.
T'aurais dû jouer au second, on est 39 sur 80.
Ouais.
Thank you.
Oh yes. Oui.
T'as besoin d'un jack maintenant?
Merci les musiciens. Bonjour à tous. Bienvenue ce matin pour ce culte. Je vais commencer par enlever ça, un peu plus à l'aise. Bienvenue à tous vous qui êtes présents ici. Bienvenue également si vous nous suivez en streaming, par ici, à la maison ou ailleurs, ou alors si vous êtes en vacances un peu plus loin. Profitez bien. Que vous soyez des habitués de l'EM ou de la paroisse protestante, que vous soyez de passage ou à l'essai, que vous soyez convaincu ou pas, je vous accueille ce matin avec toute l'équipe qui a préparé ce culte. Puis entre la prédication, la louange, là on a une bonne équipe ce matin, la technique, les nettoyages, les enfants, etc., ça en fait quand même du monde. Merci à tous pour votre travail, votre implication. Mais c'est surtout Dieu, c'est Dieu lui-même en fait, qui nous accueille ce matin. Lui qui nous appelle à nous rassembler en son nom. Il se réjouit de nous voir tous ensemble. Et il nous accueille aussi chacun individuellement, tel que nous sommes. Donc individuellement, en tant que communauté, comme son propre corps, appelé à représenter son royaume, ici et maintenant. Quel que soit notre parcours, qu'on soit en vacances ou pas, quel que soit notre état actuellement, quels que soient nos projets futurs, il nous appelle à prendre ce temps à part, à prendre ce temps ensemble, ce temps avec lui, dans sa présence, et ce temps en communauté. Il nous appelle à nous confier en lui, il nous appelle à lui faire confiance. C'est un des thèmes d'aujourd'hui. Il nous appelle à avancer avec lui, parfois sur des chemins nouveaux, vers une nouvelle terre, comme il a appelé Abraham. Et en route avec Abraham, c'est justement le thème que nous reprenons ce matin, la partie du parcours que nous faisons cet été avec la paroisse protestante. Alors je vous invite à prier. Dieu éternel, Dieu notre Père, tu nous invites ce matin, tu nous invites à ta suite, à te suivre. Et merci parce que tu nous accueilles tels que nous sommes. Alors nous venons devant toi, nous nous remettons entre tes mains, nous déposons devant toi nos soucis, nos manquements, ce qui nous fait du mal. Nous t'apportons aussi nos joies et nos sujets de reconnaissance. Que tu conduises ce temps de culte. Nous voulons t'élever, nous voulons te louer. Nous voulons être à ton écoute, être sensibles à ta parole. Que tu transformes nos vies à ton image, pour que nous puissions ensemble, ce matin, mais aussi chaque jour, chaque instant, dans nos familles, dans nos activités, dans notre travail, que nous puissions être tes témoins, les ambassadeurs de ton royaume. Amen. En effet, il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et redoutable, qui n'avantage personne et ne se laisse pas corrompre par des cadeaux. Il prend la défense des orphelins et des veuves. Il manifeste son amour pour l'immigré installé chez vous en lui donnant de la nourriture et des vêtements. Vous donc aussi, aimez l'immigré, car vous avez été immigré en Égypte. Reconnais l'autorité du Seigneur, ton Dieu. Adore-le, lui seul. Attache-toi à lui et ne prête serment qu'en son nom. Adresse-lui tes louanges. C'est lui qui a accompli en ta faveur les actes grandioses et redoutables dont tu as été témoin. Tes ancêtres n'étaient pas plus de 70 lorsqu'ils sont arrivés en Égypte. Maintenant, le Seigneur ton Dieu t'a rendu aussi nombreux que les étoiles. Alors là, c'est un texte de Deutéronome 10. L'Éternel qui s'adresse à Israël. Puis par rapport à Abraham, on est un petit bout plus loin dans la Bible, quelques siècles dans l'histoire de Dieu, un petit peu plus loin avec l'histoire de Dieu avec son peuple. Ce peuple qui est de nouveau de retour d'Égypte, tout comme Abraham. Et il y a des recommandations intéressantes, en particulier par rapport à l'immigré. Mais ce matin, je voulais reprendre ces versets. Il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et redoutable. Il n'avantage personne, il ne se laisse pas corrompre par des cadeaux. Il prend la défense des orphelins et des veuves. Il manifeste son amour pour l'immigré, reconnaît l'autorité de Dieu, adore-le lui seul, attache-toi à lui, adresse-lui tes louanges. C'est lui qui a accompli en ta faveur les actes grandioses et redoutables dont tu as été témoin. Alors on va continuer avec un temps de louange et je vous invite à vous lever.
Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. De tout puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. De tout puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux éphires son chant doux et léger, mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du bon roi, alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour.
Je suis En présence.
suis transformé en présence de ta majesté.
Je prie encore. Dieu éternel, ton nom est grand et tu règnes. Tu es majestueux, tu es tout puissant. Merci de t'être révélé à nous. Merci de pouvoir ensemble te louer et élever ton nom. Dieu puissant, merci pour ta parole qui nous parle aujourd'hui. Que tu nous accompagnes dans ce temps de prédication qui va suivre, que tu ouvres nos oreilles à ta voix, que tu renouvelles notre intelligence, que tu transformes nos cœurs et que nos vies puissent refléter ta lumière, que nous puissions être tes témoins à chaque instant. Amen. Alors, pour aujourd'hui, on va lire dans Genèse 13, le chapitre entier, les versets 1 à 18. D'Égypte, Abraham retourna au Négev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot l'accompagnait. Abraham était très riche. Il possédait de grands troupeaux ainsi que beaucoup d'argent et d'or. Il alla par étapes du Négev jusqu'à Bethel, là où il avait déjà campé, entre Bethel et Haï, à l'endroit où il avait construit un autel. Abraham y pria le Seigneur en l'appelant par son nom. Lot, qui l'accompagnait, possédait lui aussi des troupeaux de moutons, de chèvres et de bœufs. Il avait ses propres tentes. À cause du grand nombre de personnes et d'animaux, la région ne suffisait pas pour qu'ils y restent ensemble. D'autant plus que les Cananéens et les Périsites habitaient aussi le pays. Une dispute éclata entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Alors Abraham dit à Lot, il ne doit pas y avoir de dispute entre nous, ni entre nos bergers, car nous sommes de la même famille. Tu as tout le pays devant toi. Séparons-nous. Si tu vas vers le nord, j'irai vers le sud. Si tu vas vers le sud, j'irai vers le nord. Lot regarda. Il vit que toute la région du Jourdain était bien arrosée, jusqu'à Soar. Avant que le Seigneur détruise Sodome et Gomorre, elle était comme un paradis, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui la région du Jourdain et déplaça son campement vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent en frères. Abraham resta dans le pays de Canaan. Lot campa près des villes de la région du Jourdain et alla planter ses tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de cette ville étaient méchants et offensaient gravement le Seigneur.
Après que Lot se fut séparé d'Abraham, le Seigneur dit à Abraham, « Porte ton regard depuis l'endroit où tu es, vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à tes descendants pour toujours. » Je rendrai tes descendants si nombreux que personne ne pourra les compter, pas plus qu'on ne peut compter les grains de poussière de la terre. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car c'est à toi que je le donnerai. Abraham déplaça son camp et vint s'installer au chêne de Mamré, près d'Hébron. Il y construisit un autel pour le Seigneur.
Voilà, bonjour. Vous auriez pu vous asseoir plus en avant, on n'est pas à l'école. Hein, mais bon. Alors, on continue notre parcours avec Abraham, hein, qui nous occupe cet été. C'est un récit qui se situe il y a environ 4000 ans, mais écrit bien plus tard. Un très vieux récit, mais qui a beaucoup de résonance actuelle, aussi bien personnelle que sociétale. Il y a des histoires de famille, de fécondité ou d'infécondité, des histoires d'accès aux ressources, des conflits, des histoires de migration pour cause de famine, toutes sortes de choses que on voit aussi aujourd'hui. Alors, cet Abraham, c'est une figure emblématique qui, en fait, est commune aux Juifs, aux chrétiens et aux musulmans. Même si chacune de ces religions y lit, l'interprète à sa manière. De fait, c'est toujours très enrichissant d'écouter des commentaires juifs sur les textes de l'Ancien Testament, parce que ça nous donne d'autres éclairages et ça nous ouvre aussi à la pluralité d'interprétations auxquelles les Juifs sont tout à fait habitués. Alors ce matin, avant d'entrer dans le récit de cette séparation d'Abraham et de Lot, j'aimerais reprendre un peu cette question de l'appel initial qui a mis tout ça en route. Et y ajouter aussi un éclairage supplémentaire. Et puis ensuite, on parcourra un peu ensemble l'histoire qu'on a lue tout à l'heure. Puis enfin, on va se demander en quoi Abraham est un modèle pour nous et se poser ensemble quelques questions sur nos vies et nos manières de vivre à partir de ces textes. Alors, au départ, il y a cette mystérieuse voix divine « Quitte ton pays, ta famille, va dans le pays que je te montrerai. » Alors, il y a 15 jours, c'est Bertrand Barral qui nous a emmenés dans une réflexion pleine de richesse et qui mettait le doigt sur ce petit mot qu'on n'a pas dans nos traductions en français « Va vers toi-même ». Et il a notamment évoqué ce voyage auquel nous sommes tous invités pour sortir de tous les héritages qui peuvent nous étouffer. Et puis dimanche dernier, au CEPOM, donc à la cité, Philippe Anchaud a repris ce petit mot. Il nous l'a même décliné en hébreu. Vous souvenez ceux qui étaient là ? L'ekleka. Voilà, et il a souligné à quel point c'est un appel personnel, au singulier ou au pluriel d'ailleurs, car la foi est toujours un chemin personnel. Cet appel à suivre notre propre chemin et à marcher, à être des marcheurs ensemble en Église. Alors ce matin, j'aimerais ajouter une autre couche de réflexion sur cet appel initial. Et je crois que c'est la richesse de ces vieux textes d'avoir plusieurs couches de signification qui ont toutes leurs valeurs. Et c'est aussi une richesse dans une collaboration œcuménique d'entendre des gens qui viennent d'autres horizons ecclésiastiques lire des textes avec nous et y apporter leur propre éclairage. Alors quand Abraham quitte un pays, ses parents, la maison de son père, en fait, c'est toute une civilisation, toute une vision du monde, toute une vision de l'homme, toute une vision de Dieu qu'il quitte. Et en entendant l'appel de Dieu, en y répondant, il inaugure une nouvelle vision du monde. Je ne vais pas le développer en détail. Si ça intéresse tel ou tel, en fait, je me base sur un exposé de Paul Emmes,
intitulé « Les sources chrétiennes de la science moderne ». Les récits de création de la Genèse, ils illustrent déjà ce contraste entre les dieux de l'époque, les dieux sumériens, et le dieu de la révélation. Alors, quelques éléments de cette manière de voir des Sumériens à l'époque de Moïse. Pour eux, les dieux sont multiples. Ils ont des histoires entre eux. Et puis, finalement, ils ont créé des hommes pour être leurs esclaves. Pour les Sumériens, les astres sont des divinités qui gouvernent les cycles de nos existences. Il faut leur rendre un culte. Ils avaient des rites avec de la prostitution sacrée pour assurer la fécondité de la terre et des humains. Ils avaient l'idée que tout est cyclique, tout ce qui arrive est déjà arrivé et arrivera de nouveau. Donc il n'y a pas d'histoire dans cette conception. Et puis, on doit faire des sacrifices pour s'assurer la faveur des dieux ou pour se protéger de leur colère. Alors, c'est intéressant quand même de mentionner ça parce qu'il y a pas mal de ces très vieilles conceptions qui ressurgissent dans un certain nombre d'idées présentes aujourd'hui. Alors, avec l'appel d'Abraham, tout change. Il y a un appel qui le met en route avec un projet, un appel créateur d'une histoire et créateur de liberté. Je cite une phrase de Paul Emès, « Écouter et marcher par la foi devient le mode de vie normal en réponse à ce Dieu. Ainsi, l'histoire se crée à partir des promesses d'un avenir. » Et voilà que le ciel est aussi vidé de ses divinités. Leur pouvoir divinatoire est anéanti et la vie n'est pas guidée par les astres, mais par la voix d'un Dieu personnel qui, en même temps, est le créateur de ces myriades d'étoiles qui s'offrent à la contemplation et qui aussi, dans une comparaison, Dieu lui dit... Tes descendants seront aussi nombreux que ces étoiles que tu contemples. Un point encore, ce Dieu, créateur, est bon. La création est bonne. L'être humain, homme et femme, est créé en image de Dieu, et non pas esclave de ses petites divinités. Donc le monde, la nature, mérite d'être soigné et respecté comme création divine. L'homme devient une personne libre et responsable. Et voilà qui fonde la dignité absolue de l'être humain. J'ajoute ce texte, je ne savais pas que Joël allait le lire, mais ce beau texte qui montre à quel point ce Dieu est juste, défend le pauvre, défend l'immigré, défend l'exploité. Une idée qui est très présente partout dans la Bible. Et puis Dieu a créé un monde ordonné. Les événements ne sont pas les résultats de la lubie de ces divinités, mais ce monde ordonné est accessible à notre compréhension. Limité, mais c'est une révolution de conception selon Paul Emès qui a était un des éléments déterminants dans l'histoire des civilisations et qui a permis l'émergence de la science moderne au XVIe siècle. Alors, entrons dans ce récit. D'Égypte, Abraham retourne au Négev. Alors, Abraham, il était parti de son lieu d'origine, qui était en Mésopotamie. En fait, c'est dans l'Irak d'aujourd'hui. D'où il est parti. Confiant dans la promesse de Dieu, Mais voilà que ça a assez mal commencé parce qu'il a rencontré une famine et il a fallu qu'il émigre avec sa famille en Égypte. Et puis en Égypte, on nous raconte une histoire rocambolesque, je crois que personne ne va prêcher dessus cet été, au sujet de sa femme et du pharaon égyptien. Résultat des courses, il se fait gentiment mettre à la porte de l'Égypte. Retour à la case départ, dans cette région de la Palestine où Dieu lui avait parlé une seconde fois. Alors cet Abraham, on nous dit qu'il était très riche, avec des troupeaux et de l'or. En fait, c'est tout un clan, une famille avec des serviteurs, avec des bergers, qui ont une vie de semi-nomade. Comme une grosse entreprise familiale. Donc, c'est pas seulement des bergers, hein, c'est aussi des marchands. Et c'est vrai, on n'avait pas encore de monnaie à cette époque, hein, à 1900 ou 2000 avant Jésus-Christ, mais on voit qu'il y avait déjà des échanges internationaux. Parce que l'or, l'argent, hein, c'est pas pour les échanges entre les bergers, c'est vraiment pour des choses beaucoup plus larges géographiquement. Et voilà qu'avec son groupe, toute cette entreprise, il se déplace par étapes jusqu'à l'endroit où il avait reçu la promesse d'un nouveau pays. Et puis Abraham et son neveu, on nous dit qu'ils avaient chacun leur tente. Donc ils avaient deux groupes bien organisés. Et voilà qu'ils ont un problème d'accès aux ressources. Alors c'est vrai qu'avec des troupeaux, voilà, si vous n'avez pas assez d'herbe pour les nourrir ou d'eau pour leur donner à boire, c'est un problème. Et puis en plus, ils ne sont pas tout seuls dans le pays. Voilà qui évoque aussi des situations d'aujourd'hui. Hein, j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard. Alors Abraham prend le taureau par les cornes. Il ne doit pas y avoir de dispute dans notre famille. Il prend l'initiative et il donne la liberté à Lot, à son neveu. Voilà, si tu vas au sud, j'irai au nord. Si tu vas au nord, j'irai au sud. Alors Lot choisit la région la plus prospère. Mais je présume qu'on aurait peut-être fait pareil si on avait le choix. Alors voilà, Lot s'en va, il plante ses tentes près de cette ville de Sodome, un nom un peu, voilà, même connu en dehors de la Bible. Et nos deux groupes se séparent fraternellement. Mais il y a un hic quand même. Hein. Les habitants de Sodome, nous dit le texte, étaient méchants et offensaient gravement le Seigneur. Alors ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'autre précision. Sinon qu'en général, dans l'Ancien Testament, quand on parle de cette méchanceté des humains, il s'agit souvent d'exploitation, de domination, domination matérielle, domination sexuelle, domination physique par l'exploitation. C'est ce genre de choses qui est en général sous-entendu. Puis d'ailleurs, en tout cas, mes petits-enfants, ils savent très bien ce que ça veut dire méchant. Enfin, à leur manière, parce que des fois, moi aussi, je suis méchant, mais voilà. Mais en tout cas, c'est un mot qui fait partie de leur vocabulaire. Alors ça introduit un épisode qui viendra plus tard. Je ne sais pas si Philippe va prêcher dessus finalement un jour, c'est possible. Voilà. Abraham, quant à lui, ben, il fait confiance à Dieu, il est prêt à aller où Dieu le conduira. Et cette confiance vient avant toute recherche d'avantages matériels. Et comme un fruit de cette confiance et de cette situation apaisée, voilà que la voix de Dieu se fait de nouveau entendre. Et je relis une partie de ce que Lauriane nous a lu tout à l'heure. porte ton regard depuis l'endroit où tu es vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à tes descendants pour toujours. Je rendrai tes descendants si nombreux que personne ne pourra les compter. Pas plus qu'on ne peut compter les grains de poussière de la terre. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car c'est à toi que je le donnerai. Voilà la promesse d'un pays et d'une descendance qui est renouvelée. Et la route continue. Mais c'est une promesse pour un peuple. Il y a une promesse pour Abraham, pour un homme, qui s'étend à tout un peuple. Et si on lit l'ensemble des récits, cette promesse pour un peuple s'étend à tous les peuples, à la terre entière, à nous. Alors Abraham construit un autel, un peu comme c'est son habitude, pour marquer d'une pierre blanche ces lieux où il a fait une rencontre particulière avec Dieu, avec cette voix off, comme nous disait Bertrand, cette voix d'un Dieu qui lui parle. Alors, en quoi est-ce que cette histoire est un modèle pour nous? En quoi est-ce qu'il nous inspire? Est-ce que c'est par ses richesses? Moi, je dis non. Bien que j'ai entendu des prédications, enfin une prédication en tout cas, mais c'était pas ici, hein, mais voilà, qui présentait Abraham comme un modèle de réussite et qui promet la prospérité à ceux qui ont vraiment la foi en Dieu. Prospérité matérielle. C'est ce qu'on appelle la théologie de la prospérité, qui est une conception des choses qui est assez répandue en Afrique et en Asie, en particulier, aussi aux États-Unis. Elle n'est pas totalement absente en Europe non plus. Est-ce qu'Abraham serait un modèle par sa conduite? Alors, dans notre récit, elle est assez exemplaire, dans cette séparation entre Abraham et Lot. Mais il y a d'autres parties des histoires où c'est plutôt ambigu. Donc, ce n'est pas tellement la conduite d'Abraham qui est en modèle, c'est essentiellement par sa foi qu'il nous inspire. Et le Nouveau Testament le reprend à plusieurs reprises, mais en particulier dans la lettre que l'apôtre Paul écrit à l'église de Rome. Il reprend au chapitre 4 un des textes de Genèse qui dit qu'Abraham eut foi dans le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur le considère comme juste. Paul, dans sa perspective, il insiste sur le fait que notre salut dépend de notre foi et d'un don gratuit de Dieu, et non pas de nos bonnes actions. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux a une perspective un petit peu différente. Il souligne, lui, l'endurance, la persévérance de ses patriarches, d'Abraham et de tous ses anciens croyants qui ont cru à la promesse de Dieu alors même qu'elle tardait à s'accomplir, alors même qu'ils n'ont pas vu l'accomplissement de leurs propres yeux, de leur vivant. Pourquoi? Parce qu'elle se devait se réaliser dans Jésus-Christ. Dans Jésus-Christ qui donne sa vie pour nous à la croix et qui ressuscite. Alors pour ma part, j'aimerais souligner ce matin un peu le côté pratique de cette foi. Cette foi qui est une confiance en Dieu, qui a pour nous, pour chacun de nous, un projet de bénédiction. Donc un Dieu qui nous veut du bien. Une foi confiance dans tout le cours de nos existences. Alors ce n'est pas un appel à se croiser les bras, cette confiance en Dieu. Je crois que je suis appelé à agir à mon niveau, mais en faisant confiance pour ce que je ne maîtrise pas. Et il y a toujours des choses qu'on ne maîtrise pas. Alors, je pense à différentes situations. Là, je pose simplement des questions pour que chacun puisse faire résonner ce qui se passe dans sa propre vie. Je pense aux conflits qui peuvent surgir dans nos familles, dans nos couples, dans l'Église. C'est d'ailleurs assez souvent pour des problèmes matériels, par exemple des questions d'héritage. Alors, est-ce que le moteur de mon attitude, c'est la confiance en Dieu ou c'est mes intérêts personnels? Est-ce que je fais ce que je peux à mon niveau pour essayer de résoudre les conflits? La réalité, c'est qu'on n'y arrive pas toujours. Mais l'appel de l'Évangile, c'est de toujours rechercher la paix, la réconciliation. Et puis, c'est toujours de quoi alimenter notre prière. Alors, j'ai fait aussi un petit aparté sociétal, sans avoir le temps de le développer. Dans notre récit, on a donc un problème qui était lié à l'accès aux ressources. Et ça rejoint nos interrogations d'aujourd'hui. On sait bien que beaucoup de situations de guerre sont liées à des ressources minières, pétrole par exemple, ou en République démocratique du Congo, juste dans la région où il y a nos amis Tony et Fanny Ouketti, où il y a des conflits absolument dramatiques, c'est très fortement lié à des mines d'or, de diamants, du coltrane qu'il y a dans nos téléphones portables et d'autres. Alors, bon, chez Abraham et Lot, ils étaient trop nombreux. Alors, est-ce que nous, on est trop nombreux sur cette terre aujourd'hui? Je ne sais pas ce que vous pensez. Moi, j'ai envie de dire pas forcément. Par contre, on est trop nombreux pour le style de vie qu'on mène. Ça me paraît une certitude. Et on ne s'en sortira pas seulement avec des améliorations techniques. Mais il faudra absolument modifier notre manière de consommer, de voyager. On ne s'en sortira pas non plus si chaque pays s'enferme dans ses frontières. On ne s'en sortira qu'avec plus de solidarité. Je reviens à des considérations plus personnelles. En se posant la question, comment est-ce que je peux mettre en œuvre la confiance en Dieu, en particulier face aux épreuves? Des accidents, les maladies, peut-être un licenciement, une séparation, les échecs, ou bien dans les changements. Dans nos parcours de vie, il y a des changements. Des changements qu'on choisit, il y a des changements qu'on subit. J'avais envie d'évoquer, pas du tout comme modèle, mais simplement pour faire résonner pour chacun de nous, certaines expériences personnelles. Voilà, je suis parti en mission. C'était un choix, c'était un appel, c'était une vocation. 3 ans après, retour en Europe, non choisi à cause de circonstances politiques. Mais je constate que Dieu a ouvert des portes qu'on ne pouvait pas imaginer à l'époque des événements. Un mariage choisi, une séparation subie, avec des prières restées sans réponse, mais en même temps une présence de Dieu manifestée très concrètement par la solidarité des frères. Voilà. Je pense aussi à une fin de contrat dans mon service en 2002. Enfin, une fin de contrat à moitié, parce que j'étais licencié à 50%, avec chômage à 50% pendant une année. Et au bout de cette année, une rencontre juste incroyable avec des gens un week-end qui me disent qu'ils cherchent un prof de maths dans un lieu d'enseignement, on me dit ça à sauf erreur. Le dimanche, je téléphone. Le lundi, je rencontre le directeur. Le mardi et le mercredi, je donnais mes cours. Et c'était juste incroyable. Alors moi, j'aime pas trop chercher des signes de Dieu, mais là, j'ai pas pu m'empêcher de me dire que Dieu me faisait un petit signe. Voilà. Alors simplement pour dire que, je crois que Dieu a des projets pour nous, on ne voit pas toujours, mais à long terme, on voit que sa présence est là et qu'on peut lui faire confiance. Alors en conclusion, deux mots, confiance, bénédiction. Faire confiance en un Dieu qui nous veut du bien, c'est un peu le sens du mot bénédiction. Faire confiance en dépit des circonstances adverses, parce que les épreuves, les accidents, les maladies sont souvent inexplicables, mais c'est jamais une punition divine. Et Dieu nous veut du bien même au travers de ces épreuves. Et puis cette bénédiction, elle est large, elle s'élargit aux autres. La bénédiction de Dieu est contagieuse, elle se prolonge au-delà même de notre parcours de vie limité. Voilà le chemin sur lequel nous sommes invités à nous mettre en route et à marcher ensemble à la suite d'Abraham.
Je vous invite à prendre un temps où on pourra s'exprimer dans la prière en lien avec ce que Sylvain nous a partagé, la confiance qu'on peut avoir en cet avenir, en cette bénédiction, aussi en la reconnaissance, reconnaissance pour ce que Dieu fait dans nos vies, ce qu'il fait autour de nous. Alors, je vous invite à prier, je vais passer avec un micro si vous désirez lever la main, faire signe, plutôt des prières courtes. Et comme ça, ceux qui sont qui nous suivent par streaming peuvent aussi suivre ce temps de prière et le partager avec nous. Alors, je vais commencer. Seigneur Dieu, merci pour l'appel que tu as lancé à Abraham, merci parce qu'il s'est élargi et merci parce que aujourd'hui tu m'appelles, moi, tu nous appelles chacun de nous. Et c'est vrai que c'est pas du tout par rapport à notre comportement, par rapport à notre mérite, mais aide-nous à avoir cette foi pour faire ce pas, pour faire ces pas qui nous permettent d'avancer avec toi. Amen.
Père céleste, je veux te louer et bénir ton nom et me réjouir en toi. Je te remercie pour la consolation que tu m'accordes dans ce temps troublé et difficile. Tu Tu ne faillis pas, Seigneur, tu es fidèle. Et comme la parole le dit, tu t'occupes des orphelins et des veuves. Merci pour ta présence et merci de pouvoir te faire confiance sans savoir ce que demain sera. Juste faire confiance en sachant que tu es là, que tu es fidèle et que tu es solide. C'est sur toi que je peux m'appuyer. Je veux simplement ce matin te dire ma reconnaissance et ce sentiment de privilège de pouvoir vivre cela avec toi et avec les amis de l'Église. Tu es bon, Seigneur. Et je te loue et je te bénis. Amen.
Merci, Seigneur, parce que tu es digne de toute notre confiance. Et ce matin, je veux te dire que je désire vraiment te faire confiance aujourd'hui, pour aujourd'hui, et rester dans cette relation, Seigneur, où je peux reconnaître ta bonté, où je peux reconnaître que tu peux tout faire pour que nous soyons en sécurité et que nous puissions vivre pleinement. Même si nous sommes faibles, même si je suis faible, Seigneur, tu gardes ta bonté envers moi et tu traces un chemin sur lequel nous pouvons avancer parce que si nous avons confiance en toi aujourd'hui, ce n'est pas pour rester là, mais c'est pour avancer. Merci Seigneur pour ta grâce envers nous. Amen.
Oui, Seigneur, ce message que nous avons entendu nous rappelle et nous stimule pour nous approcher davantage de toi, te faire confiance en toutes choses. C'est vrai que certains problèmes, certaines épreuves, Seigneur, sont troublantes, mais nous pouvons lever les yeux vers toi, te dire « Seigneur, aide-moi » et nous savons que tu nous aides. Et nous te faisons confiance davantage, Seigneur, en tout temps. Amen.
Fidélité sera notre paix.
confiance dans ta fidélité sera notre paix. Nous avons tant de peine à croire en tes promesses et à ne pas compter sur nos propres efforts. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force et la confiance dans ta fidélité. Tu as tant de nous révéler ta tendresse et de convaincre nos cœurs de ta compassion. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix.
À peu près au bout. Merci pour les prières qui ont pu être partagées. C'est une richesse de pouvoir vivre ça ensemble. Et pour terminer, donc, il y a quelques annonces. Je ne sais pas si quelqu'un est désigné, mais je les fais volontiers, enfin, pour ce qui est en ma connaissance. Je rappelle pour commencer les grillades de mercredi. C'est à 19h. Vous êtes tous les bienvenus. Il y a un grill qui est sur place, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Par contre, il faut amener de quoi manger et puis éventuellement de quoi boire. Et puis sinon, dimanche prochain, le culte dimanche 25, il y aura deux cultes. Celui à 10h ici, normal à l'EM. Et puis, il y aura un deuxième culte au CEPOM, avec la paroisse protestante, et nous y sommes les bienvenus, même si on a déjà un culte ici. Oui ?
Le culte ici,
il y aura la Sainte Seine. Voilà, alors chouette, ce sera un culte avec Sainte Seine. C'est vrai que c'est aussi une richesse de pouvoir prendre ça ou vivre ça pendant ces cultes. Et puis sinon, pour les Kids Games, je te laisse venir Roger.
Voilà, j'ai quelques papillons pour les Kids Games. Si vous avez des personnes dans votre immeuble, dans votre entourage, qui ont des enfants de 7 à 14 ans et qui ne savent pas quoi faire au mois d'août, donc il y a deux camps, un camp au Lignon et un camp aux Évaux, 2 au 6 août au Lignon, 8 au 14 août aux Évaux. Donc c'est des camps super, c'est ouvert surtout à des enfants qui sont hors église et qui sont en dehors de nos milieux. J'ai quelques papillons, venez vers moi. On est quelques personnes de l'église à y participer. Il y a les Terra, il y a Clémentine, Mireille et moi. Il y a aussi plusieurs personnes qui vont venir nous donner un coup de main pour monter le chapiteau aux Évaux au mois d'août, le 6 et le 7. Et si certains veulent nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. On a besoin de force. Merci aussi de penser à ces camps. Au Lignon, il y a 60 enfants et aux Évaux, on attend plus de 200 enfants. Merci.
Merci bien. S'il n'y a pas d'autres annonces, je te laisse venir pour la bénédiction.
Mais il y en a peut-être une autre. Je ne sais pas si Olivier, qui est venu ici accompagner, tu peux peut-être nous faire une petite annonce. Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Tu peux, viens ici, voilà. Venez les deux.
Bon, je pense que la plupart me connaissent. Alors, Gabriella est déjà venue ici quelques fois, donc je suppose que vous avez aussi pu la rencontrer. On compte se marier, on va donc se marier, avoir le mariage civil cet été, et le mariage à l'église va suivre probablement le printemps prochain, autour du printemps prochain. Voilà. Donc, Gabriella vient de Turgovie, donc si vous parlez suisse allemand, elle va se sentir à la maison. Autrement, elle parle un petit peu le français. L'anglais également, voilà.
Seigneur, nous voulons te remettre Olivier et Gabriella, te remettre ce beau projet de vie qu'ils ont ensemble, et te demander une bénédiction toute spéciale pour eux. Amen. Voilà, je vous invite à vous lever pour vous lire en guise de bénédiction un texte tiré de Galates 3, 8 à 9. L'Écriture, dit Paul, a annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. Dieu bénira toutes les nations de la terre à travers toi. Donc vous. Abraham a cru et il fut béni. Ainsi, tous ceux qui croient seront bénis comme il l'a été. Faites confiance à Dieu. Recevez sa bénédiction et transmettez-la. Bonne semaine.